Amer Fantôme. Grammaire fantôme. Une émission par Nadia Lichtig.
Nous allons rencontrer aujourd'hui Yuriko Kaze, violoniste soliste d'origine japonaise, qui nous parle de son parcours et de sa vision de l'enseignement de la musique. Elle collabore régulièrement avec d'autres musiciens de grand talent et à la fin de cette émission, nous aurons l'occasion d'entendre son interprétation de Tzigane de Maurice Ravel, accompagné de Bertrand Giroux, pianiste virtuose et directeur de l'Académie musicale Opus 74 à Flaine, où a lieu la rencontre qui suit.
Bonjour Yuriko
Kaze. Bonjour Nadia.
Vous êtes violoniste soliste.
Oui.
Je vous ai découverte mardi dernier ici à Flaine. Vous avez joué un morceau des Grieg.
Oui, c'était le troisième sonate de Grieg, voilà, pour violon et piano.
C'était extraordinaire.
Merci.
C'était très énergique. Il y avait une présence de scène vraiment très troublante.
Merci beaucoup.
Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de votre parcours, pour en savoir un peu plus de vos projets. Alors, première question, comment vous êtes venue à la musique, au violon?
Alors, à la base, c'est ma mère qui a fait des études de piano et m'a mis au violon quand j'avais à peu près 3 ans, 3 ans et demi. Parce qu'elle est fan de Perlman, donc voilà, elle voulait que je fasse du violon et apparemment ça a collé, donc et puis je suis tombée sur un bon professeur dès le départ, donc voilà.
À 3 ans, comme ça, à la maison d'abord?
À la maison, oui. J'ai eu un professeur et puis après, donc en fait, je suis japonaise, d'origine japonaise, mais je suis née en France, donc j'étais en région parisienne. Et donc je suis restée là jusqu'à l'âge de 8 ans en France et après je suis partie au Japon, mais j'ai vécu oui, en région parisienne jusqu'à l'âge de 6 ans et après pendant 2 ans à Bordeaux. Voilà, donc au départ c'était des cours particuliers et puis à Bordeaux on m'a accepté aussi dans le conservatoire d'Aquitaine. Voilà,
quand vous êtes entrée, vous aviez quel âge?
À Bordeaux c'était entre 6 ans et 8 ans et puis il y avait un professeur, c'était Jacqueline Comange qui m'avait pris gentiment dans sa classe.
Ouais. Donc,
voilà. À mon âge, je n'avais pas le droit d'aller même dans sa classe, mais voilà, ça s'est arrangé apparemment comme ça.
Donc, vous étiez quand même déjà une violoniste surdouée quand vous étiez petite.
Surdouée, je ne sais pas, mais en tout cas, j'étais très sensible à la musique apparemment, parce que j'étais dans une école maternelle franco-japonaise qui est à Paris, et d'ailleurs qui existe depuis à peu près que d'ailleurs je fais partie de la première promotion il me semble et que quand en fait j'étais là-bas et quand on me laissait à chaque fois le mercredi dans cette école maternelle, bah, je pleurais toute la journée, j'étais inconsolable. Et sauf quand il y avait un peu d'activité en musique, là je m'arrêtais apparemment à pleurer et puis je chantais. Et puis dès que c'était fini, bon, voilà, c'est reparti, c'était plus possible, on pouvait rien faire. Je pleurais toute la journée jusqu'à ce que ma mère vienne me chercher apparemment. Donc,
voilà. D'accord. Et donc après, le supérieur où vous avez fait vos études, vous êtes retournée au Japon?
Donc voilà, je suis retournée au Japon, j'étais à... donc mes études à l'école de Toho, qui est assez réputée, voilà, l'école privée, donc jusqu'à mon baccalauréat là-bas, donc c'est études de musique, voilà. Et après, bah, je suis reparti en France pour tenter ma chance à Paris, au CNSM de Paris, donc je suis rentré après dans la classe de... Olivier Charlier, voilà.
Ah, et ok. On va commander, oui.
Oui, bonjour. Ça me fait plaisir.
Vous faites des citronnades de pâte à l'eau?
J'ai une citronnade maison.
Eh bien, ah, deux, alors.
Deux.
Ouais, merci. Donc, oui, ça marchait. Donc,
oui.
Après, il y a eu le CNSM à Paris.
C'est ça, oui.
Et donc, là, on reste combien de temps? 5 ans
4 ans.
4 ans.
À mon époque, c'était, voilà, 3 ans ou 4 ans, donc, voilà.
Et après ça, alors on est soliste accompli et...
Au départ, j'étais plus chambriste en quatuor à cordes. Donc j'ai fait plus de festivals ou des concours avec le Quatuor Lamy que j'ai formé avec mon mari Sébastien Diacomi qui est au violoncelle. Donc on a fait pas mal de concerts en quatuor à cordes. Après, mon mari est tombé malade, il a eu une leucémie, voilà. Et donc du coup, c'était un peu plus compliqué de continuer. Et après, j'ai aussi joué un peu à l'Orchestre de Paris, tout ça, un petit peu aussi d'orchestre. Mais on a fondé finalement une école de musique privée à Paris, un peu différente des conservatoires, pour faire un peu différemment les choses. C'est que même les débutants, en fait, ils pouvaient s'intégrer à l'orchestre avec quelques cours collectifs, main partielle d'orchestre.
Alors ça, c'est votre école dont vous parlez.
Oui. En fait, comme il y avait un peu tous les niveaux, et puis il y avait tous âges aussi, des adultes qui reprenaient des cours ou bien qui débutaient carrément, voilà. Et puis il y avait aussi bien sûr des enfants, donc il y avait vraiment un mélange de tout le monde. Et que il y avait une émulation des enfants qui se posaient pas de questions et qui travaillaient et puis qui jouaient coûte que coûte, les adultes qui... souvent qui peut se décrocher peut-être plus vite des fois. Ils regardaient ça et puis voilà, ça fait encourager. Et puis les enfants, ils se tenaient plus à carreau aussi parce que y avait des adultes autour, donc ça tenait un peu comme ça. Et donc
c'était à quelle époque ça?
Ça, c'était entre 2000, là il y a à peu près 7-8 ans en fait.
Voilà, donc récemment quand même. Enfin,
oui. Ouais, voilà. Oui. Après, là on va changer un petit peu notre mode. Depuis 3 ans, on a un petit peu changé notre façon de faire, donc voilà, on a moins de monde, mais voilà, avec plus de objectifs de faire déjà jouer en orchestre symphonique. Voilà.
Alors ça se passe à Paris Centre.
Oui, Paris Centre,
hein,
oui.
Donc donc c'est une école privée.
Privée franco-japonaise, on va dire. C'est voilà.
Ok. Alors et pour toute personne qui joue un instrument et qui aimerait jouer dans un orchestre.
C'est ça. Oui. Alors comme je disais justement, les gens qui débutent avec quelques même je fais un arrangement de partition pour qu'ils puissent s'intégrer avec quelques cordes à vide, mais avec un joli son, en suivant le chef, en regardant, voilà, de suivre, même si on se trompe, c'est pas grave parce qu'il y a tout le monde autour, mais le but c'est qu'on puisse observer, sentir la musique déjà, et d'essayer de suivre le chef et les autres, voilà, côte, et puis ça encourage. Donc du coup, il y a eu pas mal d'enfants ça leur a donné envie de faire aussi des études, donc qui ont fait des concours après, plus tard, donc voilà.
Donc il y a cette volonté aujourd'hui de transmettre, et puis aussi d'être assez démocratique dans la musique.
Oui, tout à fait.
Alors que ça, c'est finalement pas votre éducation, enfin, vous étiez...
Oui, tout à fait. Oui, j'ai fait un cursus très classique de conservatoire, voilà. Mais justement, on voyait des choses, je voyais qu'on pouvait faire autrement, donc surtout mon mari Sébastien Diacomi qui dirige maintenant donc, l'orchestre de l'école, et puis on va faire développer en orchestre professionnel. Lui, il a vraiment une façon de faire qui est totalement différente d'un conservatoire, même si lui aussi il a une formation classique. Mais là, il est en train d'écrire un traité d'interprétation musicale pour donner des astuces aux musiciens de pouvoir comment interpréter justement et analyser la partition, parce qu'il y a beaucoup de livres d'analyse ou de voilà des d'harmonies ou autres, ça il y en a beaucoup. Mais par contre, même si on sait, même si on joue en rythme avec des justesses, tout ça, souvent il y a plein de musiciens qui ne savent pas quoi faire avec ça, et donc on essaie de donner des astuces surtout pour les cordes et pas que en fait, aussi pour le chant, pour les vents aussi, pour qu'on puisse mettre en valeur chaque compositeur de chaque époque. Voilà. Mais ouais. Ça peut être adapté pour tout, ça peut être piano seul ou le chant. Ou, voilà. Ouais. Mais c'est surtout pour savoir comment chanter la mélodie et d'analyser la partition, mais c'est de savoir comment surtout interpréter avec l'instrument. Par exemple, des adultes qui ont qui ont joué de l'instrument dans leur enfance et qu'ils ont arrêté. C'était une occasion de redécouvrir un petit peu une autre manière de pratiquer l'instrument. Voilà. Maintenant, c'est plus développé en projet d'un orchestre symphonique.
Et qui permettrait ensuite d'être comme ça, de se produire.
De se produire, voilà, tout à fait. Oui.
Et avec une formation fixe ou
On verra, mais ça serait bien que oui, on puisse faire des concerts régulièrement et surtout donner l'occasion aux jeunes solistes de se produire. Là, avec donc notre école, on a un peu changé de cap après la Covid. Ça nous a un peu, je pense que pour beaucoup de gens, ça, c'était une occasion de un peu réfléchir ce qu'on va faire après. Et qu'on a un peu changé de cap pour essayer de mettre en valeur les jeunes solistes et de donner tout de suite l'occasion de jouer avec un orchestre derrière. Parce que quand on est encore étudiant, bien sûr, souvent, nous, les cordes violon ou violoncelle, on est souvent accompagné par un pianiste pour des examens ou concerts. Mais quand on est quand même accompagné par un orchestre, normalement, c'est plus quand on aurait gagné un concours ou autre, où il peut y avoir des occasions de se produire comme ça. Mais s'ils sont des concertos qu'eux ils peuvent jouer, mais qu'on fasse en sorte qu'ils puissent tout de suite imprégner de la vraie formation avec justement une expression et d'ambiance qu'on peut tout de suite sentir, ça leur met encore plus en piédestal pour mettre en valeur et ça les encourage sans doute.
Certainement. Plus, oui. Et puis ouais. Ça leur apprend aussi,
bien
j'imagine.
Sûr, oui.
Donc c'est un orchestre qui permettra à des jeunes
futurs solistes qui peuvent justement faire leur expérience.
Et alors ça se passe dans quels locaux à Paris?
Plusieurs locaux en fait qu'on utilise. En fait, à la base, quand on faisait encore l'école de musique pour tout le monde, on avait un local, mais là on a quitté. Donc pour l'instant on loue occasionnellement une salle dans Paris. Voilà.
Et alors quels sont les autres projets en tant que violoniste, soliste?
Tant que violoniste, j'étais plus chambriste, mais là je voudrais plus essayer de faire des duos effectivement. Et donc peut-être l'année prochaine, si je peux faire des tournées un peu plus à l'étranger, où je suis en train de voir ça, voilà.
Et avec quel type de programme?
Alors, je me dis peut-être si je vais à l'étranger, plutôt il y a un programme de musique française, peut-être, comme Saint-Saëns ou Debussy ou Ravel ou choses comme ça. Mm-hmm. Et puis après, voilà, j'aime bien aussi Mozart, ça dépend. J'adore aussi Bartok et Prokofiev, donc un peu tout le... toutes les époques, mais c'est surtout faire voyager quand je joue, mettons Haydn, Tchaïkovski et je sais pas Ravel, et que les gens puissent voyager justement et ressentir un petit peu le son de l'époque. Alors j'ai aussi quelques instruments différents pour jouer de la musique baroque ou autre, mais avec notre instrument moderne. Parce que même un Stradivarius, à la base, il faut savoir que ça a été transformé tous. La caisse de l'instrument est d'origine, c'est Stradivarius qui avait fabriqué la tête, tout ça. En fait, en instrument, quand on dit c'est d'origine, c'est surtout la tête et le corps qui compte. Et tout ce qui est le manche, la touche, le chevalet, tout ça a été tout changé parce qu'à l'époque, ça a été monté différemment pour jouer de la musique baroque. Il n'y avait pas de montonnière, la touche était beaucoup plus grosse, le manche était plus gros et la touche était plus courte. Voilà. Donc ce n'était pas du tout la même façon de jouer non plus avec un archet baroque droit, très tendu, plus court. Donc ça a été transformé, mais avec notre montage moderne, on peut aussi essayer de produire la même chose, en tout cas faire un compromis pour pouvoir faire voyager un peu plus et faire ressentir le son de l'époque. Enfin, c'est ce que j'aimerais
Donc il y aurait comme ça un voyage dans différentes époques,
ça,
et
oui.
Jouer du baroque mais avec le moderne quand même.
Oui, oui. Il y a plus en plus de recherches comme ça et que... Il y a aussi les partitions qui sont accessibles maintenant sur Internet, alors que de mon époque, quand j'étais étudiante, trouver un manuscrit, c'était très très compliqué, même voire impossible. Donc on ne pouvait pas vraiment savoir les vraies articulations, même carrément les notes, parfois ça a été changé. Alors il y a des chercheurs qui notaient, qui essayent d'analyser la partition et qui éditaient, qui imprimaient tout ça. Mais souvent, on n'a pas la même façon de voir les choses entre musicien et l'éditeur. Mais c'est aussi très intéressant et enrichissant de comparer. Et puis après, de chercher mon interprétation aussi, à ma façon de voir les choses. Et voilà.
Tout à l'heure, on a parlé aussi de que sur le net, vous développez des cours. Donc, il y a toute cette ouverture qui vous intéresse.
Oui, sur YouTube, j'ai une chaîne YouTube. Essentiellement sur la pédagogie, puis j'ai quelques enregistrements que j'ai mis dedans. Mais c'est surtout pour encourager les jeunes musiciens qui cherchent des informations pour encore plus pouvoir travailler. Parce que on peut avoir des cours au conservatoire ou avec un professeur, le meilleur professeur de, je sais pas, il y a plein de professeurs qui sont bien, mais le plus important, c'est comment savoir travailler chez soi. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui sont perdus là-dessus. Et moi-même, j'ai cherché aussi, et que mon mari, qui est assez avant-gardiste et qui a une façon de voir assez différente des autres, m'a permis de aussi développer avec lui une façon de travailler, de voir en rapport toujours avec la partition, mais aussi avec l'instrument, comment on l'interprète. Bon, nous, ce serait surtout avec l'archer et tout ça, parce que la musique, c'est de l'émotion. On voudrait mettre de l'expression, mais on ne sait pas toujours comment faire. Et même quand c'est marqué forte, piano, des nuances, ça ne veut pas dire que c'est toujours la même façon de produire le son. Donc par époque, il y a une certaine façon de jouer aussi qu'on peut maintenant, je pense, ouvrir au public. C'est que avant on payait très cher pour avoir ce genre d'informations par les professeurs, et que maintenant je trouve que sur internet, alors on peut trouver un peu de tout, donc il faut choisir bien sûr, mais ça c'est pas forcément plus mal, parce que ça nous apprend à aussi, est-ce que j'aime ça, est-ce que j'aime pas ça. Ça ne veut pas dire est-ce qu'on a raison ou pas, mais c'est d'avoir, de faire son propre choix, et de aussi développer pourquoi moi j'aime ça, comment il fait si je veux avoir la même chose. Et que sur YouTube, on peut voir plein de choses gratuitement, et qu'avant, nous on allait à la bibliothèque pour chercher des choses, des informations. Maintenant, bon, c'est bien qu'on puisse avoir plein de choses. On fait le tri, on essaye de chercher un petit peu par soi-même. Donc on a plein de moyens de que nous aussi on puisse donner pour dans le monde entier des pistes. Donc je trouve que c'est pas mal. Et après, si on peut se connecter un peu partout dans le monde, on peut peut-être faire d'autres projets intéressants. Et oui, ça...
Il y a une pensée autour de la transmission.
Oui, je suis passionnée de l'enseignement. Oui,
ça s'entend. Oui. Voilà, il y a effectivement une façon d'aborder certaines approches classiques qui ont peut-être pas porté leurs fruits aussi. Enfin,
oui. En fait, ça dépend des gens. Pour ceux qui sont très, cérébrales même les enfants, quand je vois ceux qui débutent, qui sont très musiciens dès le départ, même s'ils ne savent pas lire la partition, il suffit qu'ils écoutent et qu'ils puissent reproduire la même chose alors qu'on ne lui a rien dit, quoi. Et puis il y en a d'autres, par contre, si on lui demande qu'est-ce qu'il y a comme note sur la partition, ils ne savent pas lire les notes, mais il y en a qui sont très mathématiques, qui sont très logiques, il y en a qui sont beaucoup plus ludiques, et il faut que ça soit très souple, et c'est à nous l'enseignant de s'adapter et de donner des clés pour pouvoir développer le côté ne pas essayer de formater, mais plus encourager et de faire développer le bon côté qu'il a, ou les choses qu'il a déjà tout de suite instinctivement senti, et d'encourager à développer. Et après, si, admettons, on a des difficultés pour lire, ça viendra forcément après, parce que ce sont des choses. Mais si on encourage, on peut faire plus d'efforts que de de décourager, c'est un peu voilà, difficile parce qu'on n'est pas tous égaux, hein, donc on a forcément des qualités et des choses qu'on peut après compléter. Mais c'est mieux de développer d'abord ce que l'enfant est intéressé et puis qu'il est déjà capable de faire.
Voilà. Merci beaucoup, Yuriko.
Merci.
Thank you.
Grammaire Fantôme.
On se retrouve la semaine prochaine avec notre nouvel invité.
Grammaire Fantôme. Grammaire Fantôme. Grammaire Fantôme. Une émission Panardia Lichtig.